notre objectif, mais notre objectif au-dessus de cela, c'est que nous trouvons la vie en Christ, une vie qui va au-delà de cette vie-ci. Et c'est ça le sujet donc de ce que nous allons traiter ce matin. Juste pour ceux qui sont nouveaux, c'est pas tous les dimanches que nous traitant des séries comme celle-ci, on traite notre confession de foi, les différents éléments de ce que nous croyons, de ce que nous demandons à ceux et celles qui deviennent membres de notre Église d'adhérer à cette confession de foi. Voici ce que nous croyons dans l'Église. Donc, on a fait ça depuis le début de cet été et on va terminer la semaine prochaine. Ensuite, on va entamer, comme on fait régulièrement dans l'Église, une nouvelle série dans le livre de la Genèse. Nous allons prendre le cycle de Joseph, donc la dernière partie du livre de la Genèse, et tracer un peu l'histoire de Dieu, de ses promesses, de cet homme, Joseph, de cette famille dysfonctionnelle, les fils de Jacob, pour mieux comprendre ce que Dieu a à nous dire par rapport à lui-même, par rapport à nous. Mais ça serait pour le début du mois de septembre. Alors, je vous invite avec moi de prier pour que le Seigneur nous réchauffe les cœurs par rapport à ces vérités que nous allons voir maintenant. Prions. La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donne-nous, notre Père, de comprendre ces réalités, de contempler brièvement ces réalités, d'avoir soif de ces réalités. Merci que tu es le Dieu qui nous parle, qui nous prépare pour cet avenir. Et donne-nous donc de nous encourager les uns les autres autour de ces vérités. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, voici ce que dit l'article 8 de notre profession de foi. Je crois que les hommes, évidemment les femmes également compris dedans, ressusciteront corporellement, les uns pour la vie et les autres pour le jugement. C'est une très courte phrase, je pense la phrase la plus courte de notre confession de foi. Et pourtant, cette phrase décrit une réalité qui sera la seule qui nous concerne pour chacun d'entre nous d'ici 100 ans. Celle de notre avenir après notre mort physique. Si cette phrase-ci n'est pas vraie, tout le reste de la foi chrétienne, de notre activité chrétienne, n'est que pour une très courte durée, il faut le dire. Peut-être on dit que l'Église, même à l'extérieur, quand il fait froid, c'est sympa. Peut-être vous vous dites, c'est super de pouvoir louer Jésus. On apprécie l'école Don Bosco qui nous accueille. Mais tout cela ne change pas grand-chose dans la longueur, n'est-ce pas? Car d'ici 100 ans, on sera nulle part, ou bien nous sommes simplement limités à des banalités telles que celle-ci, souvent citées lors des funérailles. Et parfois, il faut le dire, et je l'ai entendu tout récemment, à des funérailles chrétiennes. C'est attribuer cette banalité à Victor Hugo. Je n'ai pas trouvé où est-ce qu'il l'avait écrit. Et donc, on dit de quelqu'un qui est décédé, tu n'es plus là où tu étais, mais tu es partout là où je suis. Attendez, tu es là jusqu'à ce que, alors, moi je suis là, non? Mais qu'est-ce qui arrive après que moi je ne suis plus là? Alors, toi, tu n'es plus là. Dans deux générations, on a avant de ne pas être connu personnellement par quelqu'un qui est actuellement en vie. Donc, même selon ce dicton, ce n'est que pour une quarantaine d'années que les morts sont avec nous. C'est réconfortant, ça? Non. Puis-je vous demander, qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont avec nous lorsqu'on le dit comme ça? Vous savez, lorsque quelqu'un nous quitte, et notre Église a connu cela ces derniers temps, on a besoin du réconfort, car la réalité de la mort, c'est que ces personnes ne sont plus avec nous. Nous pleurons quand nous ne sommes pas en mesure de profiter de la présence de la personne qui nous a quittés. Oui, nous nous souvenons d'eux. Ils nous manquent. Et donc, tout simplement, c'est cruel de nous encourager à penser qu'ils sont là partout où je le suis. Non. Non. Je viens de passer du temps avec un homme qui a perdu sa femme de, je pense, une quarantaine d'années de mariage. Et ce n'est pas du tout facile pour lui, il nous avait dit ça cette semaine. La prise de décision qu'il doit prendre, le déménagement de la maison familiale, c'est dur de faire face tout d'un coup à ce genre de décision, seul, sans la compagne de toute notre vie. Mais les funérailles chrétiennes, bien que tristes parce qu'il y a un départ, il y a une séparation, ne sont jamais sans espérance, comme dit l'apôtre Paul. Pourquoi? Car nous avons la pleine confiance que les morts ressusciteront à la vie. Comme dit l'apôtre Paul dans le verset qui précède 1 Corinthiens 15 que vous avez dans le livre, et le verset 19, il dit, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Parce que tout ce qu'on fait, c'est du blabla. Si les hommes ne ressusciteront pas. Le verset 20, premier verset donc sur notre livret, commence, vous voyez, avec un « mais ». Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Et les prémices précèdent la récolte qui suit. Ce verset donc lance ensuite le raisonnement dans ce texte de 1 Corinthiens 15 de Paul à propos de la résurrection des croyants. C'est ça notre sujet. Ce n'est pas la résurrection de Jésus le sujet d'aujourd'hui. Nous croyons aussi à sa résurrection. Nous avons affirmé cela. Donc aujourd'hui, nous traitons cette question de la résurrection des croyants. Et c'est surtout dans 1 Corinthiens 15 qui nous sert comme base pour notre réflexion. Mais on va voir d'autres textes aussi. Et sur le livret, vous allez voir que je pose trois questions. Qu'est-ce que nous croyons ? Pourquoi pouvons-nous y croire? Et qu'est-ce que cela signifie? Alors d'abord, qu'est-ce que nous croyons? Alors pour cela, j'aimerais que vous tourniez votre regard vers la première partie de l'autre texte que vous avez sous les yeux. Apocalypse 20 à partir du verset 11. C'est ce texte-ci qui est précisé dans notre confession de foi comme mettant la base de notre croyance. La vision de l'apôtre Jean, donné par Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Alors, je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfouirent devant lui et il ne se trouva plus de place pour eux. Alors, je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres. Selon leurs œuvres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang du feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de la vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors, qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce que nous croyons? Qu'à la fin des temps, au retour du Seigneur Jésus, aura lieu la résurrection des morts. Tous les morts, de tous les temps. Et les morts seront triés. Selon le symbolisme employé par l'Apocalypse, il y aura des livres sur lesquels se trouvent les œuvres de toutes ces personnes décédées. Des œuvres, oui, dans toute leur complexité, bonnes et mauvaises, ouvertes, évidentes et cachées. Des actions, des paroles, des pensées. Strictement rien n'échappera au jugement de ce Dieu. Et vous savez quoi? Nos œuvres nous condamneront. Il ne faut pas être naïf à cet égard, chers amis. Si vous êtes parmi nous aujourd'hui, toujours confiant en vous-même. Je me souviens d'être à un dîner avec un ami et les amis de son papa. Et ça m'a surpris que l'un de ses amis, un homme d'une soixantaine d'années, lorsqu'on parlait de la foi, disait ceci. Vous savez, moi je préfère rencontrer Dieu sans être pardonné. Je plaiderai ma cause, vous savez. Vous savez ce que je lui ai dit? Bonne chance à vous, monsieur. Bonne chance à vous. Évidemment, j'ai voulu dire plus. Mais j'ai voulu lui faire comprendre à quel point c'est ridicule de se présenter devant Dieu sans être pardonné. Nous serons condamnés à quoi selon ce texte dans Apocalypse 20? La seconde mort. Une mort après la mort alors. Et donc il s'agit ici d'une mort éternelle. Une mort séparée de Dieu pour l'éternité. Une mort sous la condamnation de Dieu. Dans l'étang de feu. Il est question, encore une fois, d'un symbolisme, bien entendu. Mais ce symbolisme dénote une réalité atroce. Ça, c'est des livres sur lesquels se trouvent nos œuvres. Mais il y a, et Joël nous a déjà mentionné cela, n'est-ce pas, un autre livre. Il y a le livre de la vie. Et au chapitre 13 de ce livre d'Apocalypse, ce livre est décrit comme étant le livre de vie de l'agneau offert en sacrifice. Évidemment, l'agneau, c'est encore du symbolisme pour parler de manière imagée de Jésus-Christ, celui qui s'est offert en sacrifice sur la croix, pour prendre sur lui cette punition, cette condamnation que nos péchés, nos œuvres méritent. Et quel est donc l'avenir pour ceux qui ont leur nom dans ce livre-là, le livre de la vie de l'agneau? Alors si on tourne la page, pas la page du livre, mais dans nos Bibles, si nous les avons, nous verrons au verset 27 du chapitre 21 d'Apocalypse, qu'on parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Verset 27, « Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Comment est-ce qu'ils sont donc inscrits dans ce livre-là? Par la foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Et cette réalité dont nous aurons affaire, cette vie, durera pour combien de temps? Alors, chapitre 21 d'Apocalypse, verset 4, ça vous avez sur votre livret, il n'y aura plus de mort, la mort ne sera plus. Donc cette réalité dont nous parlons, cette résurrection à la vie, durera pour toujours. Comme disait Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. C'est ça ce que nous croyons. Alors, deuxième question. Comment pouvons-nous y croire? Alors ici, on revient vers 1 Corinthiens 15. On y croit quand Jésus lui-même est ressuscité. La mort est entrée, voyez-vous, dans le monde par un homme, dit l'apôtre Paul au verset 21 du chapitre 15. Et de même, il nous dit, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22, si tous meurent en Adam, les croyants en Christ, tous ceux qui viennent à lui, seront rendus vivants dans le Christ. Et le Christ, lui, verset 21, s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Ce n'est pas ici où nous allons détailler les raisons pour croire que Christ est ressuscité physiquement, historiquement, d'entre les morts. On a eu une séance à l'église sur YouTube. Vous pouvez retrouver cela si cela vous intéresse. Mais le chapitre 15 de 1 Corinthiens démarre avec une liste des témoins oculaires de la résurrection physique, historique de Jésus-Christ. Il est ressuscité physiquement, corporellement à la vie, car en lui est la vie. Il a en lui-même la vie qui vient de Dieu, Dieu qui est éternel. Il est la source, donc, de la vie. Il est, comme il a dit, avant de démontrer cela, en menant Lazare dans l'évangile de Jean, chapitre 11, de la mort à la vie. Vous pouvez lire cela plus tard, si vous voulez. Il est, il dit, la résurrection et la vie. Et donc, chose formidable, chose fondamentale, le croyant en Jésus-Christ est lié à Jésus-Christ, uni à Jésus-Christ. Là où il va, nous le suivons, si vous voulez. Imaginons qu'il y a un train qui part de Bruxelles à Paris, et c'est un Thalys, c'est un train direct. Le train bouge physiquement, n'est-ce pas, de Bruxelles à Paris. Tout ce qui se trouve à l'intérieur du train, même s'ils ne le souhaitent pas, ils ne peuvent pas éviter la réalité que s'ils sont dans le train, ils bougent également de Bruxelles à Paris. Si le train revient, et vous êtes dedans, vous revenez dans ce train. Pas moyen d'éviter cela. Et donc, si Jésus meurt, la Bible nous dit, nous sommes unis par la foi à sa mort. Nous mourrons, pas exactement de la même façon, mais nous mourrons à notre ancien mode de vie. Et si Jésus est ressuscité à la vie, parce que nous sommes en lui, dans lui, alors nous revenons également à la vie. Le baptême chrétien témoigne de cette réalité de manière très visuelle. On meurt dans l'eau et on sort de l'eau, ressuscité à la vie. Et donc, oui, d'abord c'est lui qui est ressuscité. Mais ensuite, nous dit 1 Corinthiens 15, parce qu'il est ressuscité, nous allons aussi ressusciter également. Nous n'avons pas affaire donc à une faible aspiration. Croyez-vous à la résurrection des morts? J'espère. Non, ça c'est une espérance qui n'est pas solide. Nous avons une espérance certaine, aussi solide que le corps physique de Jésus-Christ qui est revenu à la vie. Souvenons-nous de cela. Il marchait avec ses disciples, il interrogeait ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il mangeait avec eux du poisson grillé au bord de la mer. C'était une réalité historique. Notre avenir est donc garanti par la résurrection de Jésus. L'avenir pour ceux qui sont en Christ est un avenir où nous aurons, comme le Christ, un corps ressuscité, un corps céleste, dont parle ce chapitre d'1 Corinthiens 15. Pas terrestre, mais quand même encore une réalité corporelle, bien que spirituelle. Voilà, alors les deux premières questions. Qu'est-ce que nous croyons? Comment pouvons-nous y croire? Alors, troisième question, qu'est-ce que cela signifie? Bon, j'ai choisi quatre éléments pour décortiquer avec vous. D'abord, ce qui est clair, parce que oui, il y a aussi certaines choses plus implicites, d'autres choses un peu plus obscures, et ensuite on terminera avec ce qui est central. Qu'est-ce qui est clair? L'avenir du croyant dans cette nouvelle création ressuscitée à la vie, après la résurrection des morts, est tout simplement une merveille. Si vous ne l'avez jamais fait, j'aimerais vous encourager à lire pour vous-même les deux derniers chapitres d'Apocalypse qui nous parlent de cette réalité à venir, de ce nouveau cosmos, nouvelle terre, nouveau ciel. Lisons juste les quatre premiers versets qui se trouvent sur notre livret. Verset 1, on est dans le deuxième paragraphe que vous voyez sur le livret. Et je vis descendre du ciel. D'auprès de Dieu, je vois que je lis dans une autre traduction. Alors, on va lire ici ensemble. Alors, je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Alors, qu'est-ce qui est clair ici? Nous avons une réalité, nous avons affaire à une réalité encore plus parfaite que le début de la Bible, le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin, rappelons-nous, il y avait encore la possibilité de pécher. Et le jardin, ici, n'est plus un jardin, mais maintenant est devenu une ville, une ville qui signifie qu'il va y avoir du monde, pas juste ce premier couple. Et donc nous sommes loin, lorsqu'on parle de la nouvelle création, d'un avenir sur un nuage en train de jouer à la harpe. Peut-être c'est ça votre conception grâce à certaines peintures du passé. C'est ça le ciel? Non merci. Ce serait un peu ennuyant à un moment donné d'écouter rien que la harpe, même si on apprécie la harpe. Non, le ciel, c'est un endroit social. Il va falloir vivre et interagir avec d'autres personnes, vous savez. Et si ici-bas, cela peut être un énorme défi, car ici-bas, il y a toute la gamme de péchés qui apparaissent vite, lorsqu'on essaie de vivre avec les autres, l'orgueil, la jalousie, l'amertume, l'égoïsme, l'indifférence, inégalité, mécompréhension, tentation, mauvaise volonté pour bien écouter ou pour comprendre, l'immoralité sexuelle, et ainsi de suite. Dans le jardin d'Éden, il n'y aura plus... Dans cette ville, pardon, contrairement au jardin, il n'y aura plus cette crainte de tomber dans le péché. Pourquoi? Car la mort ne sera plus. Et la mort, c'est la conséquence du péché. Plus de possibilité, donc, de tomber, de chuter, de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils feront totalement confiance en Dieu. Car il n'y aura plus Satan pour nous chuchoter, comme on a vu la semaine dernière, dans l'oreille, pour nous faire tomber. Dieu, nous dit ce texte, habitera parmi nous. Nous verrons sa gloire. Ce sera majestueux. Imaginez-vous, nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force. Nous aimerons notre prochain comme nous-mêmes, parfaitement. Les premières choses, les choses donc de cette terre, de cette vie, seront d'ailleurs disparues. Les choses donc qui découlent de la chute de l'homme, la mort, mais aussi la souffrance, les événements dits naturels qui sont aussi souvent la source de beaucoup de souffrance, ils seront disparus, car il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Bon, attendons juste pour un petit moment avant d'aller plus loin ici. Car est-ce que nous rendons compte de ce que cela signifie pour notre avenir social dans cette nouvelle réalité avec nos corps célestes que Dieu prépare pour nous? Réfléchissons juste, quels seront les métiers qui n'y seront plus dans cette ville? Plus d'avocats, plus de juges, car il n'y aura plus de disputes, plus de crimes, plus de police, car il n'y aura plus de mal, plus d'armée, car la paix y régnera, plus de médecins, d'infirmiers, quand il n'y aura plus de maladie, plus de pompes funèbres, quand il n'y aura plus de mort, plus de serruriers, quand il n'y aura plus de vol, plus de conseillers pour des relations brisées, parce qu'il n'y en aura plus. Certainement, vous pouvez compléter cette liste, n'est-ce pas, avec d'autres métiers. Mais vous imaginez, il n'y aura plus de mots de passe dans la nouvelle création. Plus de politiciens qui ne disent pas toute la vérité, de crainte de ne pas être élu. Plus de publicité trompeuse, plus d'abus sexuels, plus de pornographie, plus de marchands de religion qui cherchent à impressionner les autres. Plus de réactions orgueilleuses lorsque nous entreprenons une conversation. Plus de réactions haineuses sur les réseaux sociaux, plus de peur, plus d'angoisse, plus d'ennui, plus de frustration. Vous imaginez un tel monde? C'est presque inconcevable, tellement notre monde ici-bas est lié avec toutes ces émotions, toutes ces réactions. Mais voici le monde qui nous attend pour ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de la vie, parce qu'ils ont cru dans l'agneau envoyé par Dieu. C'est une merveille, et c'est certain, c'est clair. Alors, on passe à ce qui est peut-être un peu plus implicite. Certaines choses ne sont pas explicitées dans le Nouveau Testament, mais sont quand même implicites selon différentes données bibliques. La résurrection des morts a lieu à la fin des temps, mais du coup, la question se pose par rapport à ceux qui sont morts avant le retour de Jésus, ceux qui nous ont déjà quittés. Et si nous mourons avant le retour de Jésus, qu'en est-il de notre avenir avant la résurrection des morts? Sont-ils de telles personnes bel et bien avec le Seigneur? Où sont-ils s'ils ne se trouvent pas encore dans cette nouvelle création avec le corps céleste? Alors nous avons vu 1 Corinthiens 15, verset 20, parle de ceux qui sont endormis. Et ce terme revient au verset 51 également de ce même chapitre et ailleurs dans le Nouveau Testament pour parler de ceux qui nous ont quittés avant le retour de Jésus. Mais endormi peut donner le sens que de telles personnes ne sont pas conscients pendant tout ce temps. Comme s'ils attendent pendant cette longue période le retour de Jésus avant de pouvoir bénéficier d'un avenir. Mais le Nouveau Testament évoque plutôt un état intermédiaire, on dirait. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, nous dit ceci. « Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps, on parle de notre corps terrestre, pour aller vivre auprès du Seigneur. Donc ceux qui nous ont quittés sont auprès du Seigneur. Déjà, deux textes aussi du livre d'Apocalypse parlent des chrétiens martyrisés qui sont autour du trône de Dieu, qui lui parlent. Donc endormi, oui, mais endormi ne signifie pas de ne pas être conscient de la demeure déjà aujourd'hui dans la présence de Dieu. Jésus disait au brigand crucifié à côté de lui, à la croix, que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Donc il semble qu'il y a une existence dès notre mort physique où nous sommes avec le Seigneur, mais pas encore avec notre corps céleste. Est-ce possible que le Nouveau Testament parle de la perspective de ceux qui sont ici-bas? C'est sûrement le cas. Et nous qui sommes ici-bas, nous sommes contraints au temps. Et lorsque nous mourons, est-ce que c'est possible que nous sortons de ce cadre temporel pour rejoindre ce qui est éternel? Certaines personnes proposent cela, mais je pense que c'est difficile toutefois d'enlever la notion du temps. Même dans la nouvelle création, il me semble, le temps sera toujours là, même si ce temps durera pour toujours. Mais on s'éloigne un peu des données bibliques sur ce genre de questions. En tout cas, de notre perspective, nous qui lisons la Bible avec nos corps terrestres, alors aujourd'hui, nous pouvons dire que la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu. Et avant la résurrection des morts, nous n'aurons pas un corps céleste. Qu'en est-il également de la réalité de notre corps céleste dans la nouvelle création? La question est posée au verset 35 de 1 Corinthiens 15. Quelqu'un dira, comment les morts se réveillent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Comment répond Paul? Homme déraisonnable. Car il explique que ce qu'on sème ne donne pas suite à une récolte identique à ce qui est semé. Un grain de blé donne suite à du blé. Il y a quelque chose en commun, mais ce n'est pas exactement la même chose. De même, alors, pour notre corps céleste, nous dit l'apôtre Paul. Déjà, Dieu donne différents corps à différents êtres vivants. Verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Il y a celle des humains, celle des animaux, des oiseaux, des poissons. De même, il dit, il y a une distinction nette entre nos corps célestes et nos corps terrestres. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semé périssable, on se réveille impérissable. Semé dans le déshonneur, on se réveille dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semé corps naturel, on se réveille corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Donc, une distinction entre notre corps terrestre et notre corps céleste. Mais en même temps, une ressemblance. Tout comme il y avait une ressemblance entre le corps ressuscité de Jésus et son corps terrestre. Comme la nouvelle création est représentée comme une ville dans ces deux derniers chapitres d'Apocalypse, nous aurons avec nos nouveaux corps des relations sociales avec les autres. Jésus, Luc chapitre 19, dans la parabole des mines, parle des villes que nous aurons à gérer comme récompense à des serviteurs fidèles. Oui, c'est une parabole, il ne faut pas prendre tous les détails à la lettre. De même pour Apocalypse, lorsqu'on parle d'une ville, mais le symbolisme pointe vers une réalité sociale avec des hommes et des femmes de toutes les nations. J'ai entendu il y a quelques années maintenant un prédicateur américain ou canadien, je pense, demander quelle langue est-ce que nous parlerons au ciel. Il disait que des Chinois peut-être allaient réclamer le chinois parce que c'est majoritaire pour des chrétiens du monde entier pour le moment, je pense. Le français, parce que nos amis français sont assez fiers de leur langue. De l'anglais, parce que des Américains n'arrivent pas à parler dans une autre langue. À part Noah, tu as bien entendu ça, Noah. L'hébreu, parce que ça, c'est la langue, n'est-ce pas, de Dieu, de l'Ancien Testament. Non, s'il y aura toutes les nations, il y aura, nous dit Apocalypse, toutes les langues, le coréen, la lingala. Comment est-ce que nous allons pouvoir comprendre les uns les autres, alors dans cette nouvelle réalité sociale. Vous savez, comme disait ce prédicateur que j'ai écouté il y a quelques années, nous aurons du temps pour apprendre différentes langues. Ça prend 1 million d'ans pour moi d'apprendre le coréen? C'est fait. Encore 1 milliard d'années pour la lingala? Alors enfin, j'y serai. Et ainsi de suite. Prends ton temps, il y en a. Donc il va y avoir une réalité sociale. Mais évidemment, ici on se projette dans un futur temps. On ne peut pas vraiment imaginer la complexité, la profondeur de tout cela. Mais ce qu'il faut capter, c'est qu'il s'agit d'un avenir corporel, réel, actif, le summum, si vous voulez, de la vie pour laquelle nous avons été créés. Au mois d'août de l'année dernière, il y avait le décès d'un prédicateur américain-français qui était pasteur d'un couple de notre église qui est ici présent aujourd'hui. Il s'appelait Edward Nelson. Et là, il est décédé subitement après un accident en montagne. Et là, des funérailles d'Edward, son épouse Laura, nous a lu un morceau de Narnia. De C.S. Lewis. Elle disait que Edward lisait les histoires de Narnia. Il y a 7 tomes de Narnia, souvent à ses enfants. Et d'ailleurs, Benjamin, qui est maintenant aux États-Unis, assistant pasteur ici, il a lu toute la série de Narnia l'année dernière en anglais pour préparer son arrivée aux États-Unis. Narnia, peut-être vous ne le connaissez pas, mais c'est une allégorie de la foi chrétienne. Et le tout dernier paragraphe que l'épouse d'Edouard avait lu pour nous, c'est lorsque Aslan, donc le lion, accueille les enfants dans le vrai pays de Narnia. Une image pour parler de la nouvelle création. Vous ne paraissez pas encore aussi heureux que je le voudrais, disait Aslan. Lucie murmura, nous avons si peur d'être envoyés d'ici, Aslan. Vous nous avez si souvent renvoyés dans notre propre univers. Ah, vous n'avez pas à le redouter. Mais vous n'avez pas à le deviner? Le cœur rebondit dans la poitrine et un espoir insensé se leva en eux. Il y a eu vraiment un accident de train, poursuivit Aslan d'une voix douce. Votre père et votre mère et vous tous, vous êtes, comme vous aviez coutume de dire dans le pays ombre, mort. Mais le trimestre est fini. Les vacances commencent. Le rêve se termine. Voici venu le matin. Et tandis qu'il leur parlait, il leur apparut plus comme un lion. Mais les choses qui commençaient à arriver ensuite furent si grandes et si belles que je suis incapable de les écrire. Et ceci est pour nous la fin de tous nos récits. Et nous pouvons dire en vérité qu'ils vécurent tous heureux à partir de ce jour. Mais pour eux, ce n'est que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde-ci et toutes leurs aventures en Narnia étaient seulement la couverture et la page de titre. Maintenant, enfin, ils commencent le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue, celle qui dure toujours et dans laquelle chaque chapitre est meilleur que le précédent. Ce qui est implicite, c'est que la vie sera extraordinaire, au-delà de ce que nous pouvons jamais imaginer. Alors, ce qui est obscur, car oui, si on pousse trop loin, il y a des détails qui nous échappent par rapport à cet avenir avec des corps célestes. Nos corps spirituels célestes seront-ils limités dans le temps et l'espace? Si on se souvient de Jésus ressuscité, il apparaissait et disparaissait à différents moments à ses disciples. Ben, ce serait comme ça, lors de la résurrection des morts. Et si nous sommes limités dans l'espace, ben, ce serait où, cette nouvelle réalité? Comment serait-ce possible pour nous, parmi des milliards et des milliards de croyants de tous les siècles, de même voir l'agneau sur son trône? Je serais à 1000 kilomètres du trône s'il y a autant de personnes. Comment est-ce que je le verrais? Dieu est invisible et infini. Alors comment le Dieu invisible, infini, se révélera-t-il à nous à ce moment-là? Ça nous échappe, ces détails. Nous sommes trop limités aujourd'hui pour comprendre ces détails. Comment d'ailleurs nous ressemblerons-nous? Si notre corps céleste ressemble à notre corps terrestre, on a envie parfois de savoir, est-ce que mon corps céleste ressemblera à mon corps lorsque j'avais 2 ans, 22 ans, 52 ans, j'espère que non, ou 82 ans? On ne sait pas, c'est difficile à se pencher là-dessus. Peut-être l'âge même ne sera plus d'application. Mais si oui, comment est-ce qu'on saura qui nous sommes? Qu'est-ce qu'on va reconnaître ce que j'étais lorsque je suis ressuscité à la vie? Je serai quand même moi, parce que je suis sauvé par le sang de Christ pour cet avenir, pas quelqu'un d'autre. Donc vous voyez, il y a plein de détails quand même qui sont obscurs. Matthieu, chapitre 22, verset 20, Jésus nous donne, je pense, peut-être un élément de réponse, parce que là, il dit, en effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront jamais, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Du coup, selon cette pensée-là, il est possible que les besoins terrestres d'un corps n'entrent plus en jeu lorsqu'on parle de notre corps céleste. Mais c'est vrai, c'est difficile à savoir. Je vais utiliser ce verset juste comme un tremplin vers notre dernier point, ce qui est au centre. Parce que parfois, ce verset, Matthieu 22, verset 20, les hommes et les femmes ne se marieront pas dans la nouvelle création, est troublant pour nous. Car souvent, on envisage et on encourage souvent les autres à envisager un avenir où nous serons réunis avec nos proches qui nous manquent au ciel. Mais ici, on découvre qu'en fait, même si j'ai été avec quelqu'un pendant 40 ans ici-bas, j'arrive là-haut et je découvre que nous ne sommes plus mariés. Mais ça nous refroidit un petit peu. Est-ce qu'il y aura tout d'un coup de la distance? Mais je t'ai aimé ici. Je ne peux pas avoir un avenir avec toi plus loin. Alors, cela est un indice qu'on commence à oublier ce qui doit être au centre. Parce que selon les versets que nous avons lus, Apocalypse 1 Corinthiens 15, c'est Dieu lui-même qui est au centre. C'est sa gloire à lui qui est au centre. Ce n'est pas d'abord mes amis qui nous manquent, les membres de la famille qui me manquent, même mon époux, mon épouse qui me manque. Non, d'abord, c'est Dieu. C'est focalisé sur lui. Verset 28 à 1 Corinthiens 15, dans le livret. Lorsque tout lui sera soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, pour que Dieu soit tout en tous. Que Dieu soit tout en tous. Apocalypse 22, que nous n'avons pas su le livrer, verset 2, le trône de Dieu, de l'agneau, sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Et cela, chers amis, ce n'est pas triste, mais c'est glorieux. L'intensité d'émotion que nous avons aujourd'hui, que nous portons dans notre cœur aujourd'hui, pour nos proches, sera transformée à une échelle encore plus grande, vous voyez. Il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de tristesse. On sera transporté à une réalité encore plus profonde. Il n'y aura que de la joie, l'amour, la paix, la reconnaissance. Et donc la réalité dont pointe l'ombre de cette vie, y compris nos relations proches dans cette vie, pointe vers la réalité dans cette vie à venir. Et cela, j'espère, nous met au défi lorsque maintenant on termine. Car si cela est au centre de cette nouvelle création, où on va passer tout le temps pour l'éternité, pas juste 80 ans ici-bas. Si ça, c'est la réalité vers laquelle on va, alors qu'en est-il de ce centre ici-bas? Dieu est-il simplement un moyen pour que je puisse avoir ce que je veux, ce que moi je chéris, que ce soit, je ne sais pas, mes livres, ma famille, mon chien? Est-ce que je mets l'accent dans ma vie ici-bas, hein, sur ces choses terrestres? Parce que si oui, il y aura du décalage lorsque j'arrive en haut, lorsque je suis doté de ce corps ressuscité. Parce que là, ma préoccupation ne sera pas mes livres, ma famille, mon chien. Mes préoccupations tourneront parfaitement autour de Dieu, autour de Jésus-Christ. Que donc l'Église de Jésus-Christ soit concernée pour sa gloire avant toute autre chose, que ce soit le cas pour nous en tant que croyants, que cela soit le cas pour nous en tant qu'Église. Et ça nous mène à la semaine prochaine. Nous allons voir notre dernier article de notre confession de foi. Il s'agit de l'Église. On prie ensemble? Merci Seigneur qu'il y a ce livre de la vie. Merci que si nos noms sont inscrits dans ce livre de l'agneau, qui a donné sa vie en sacrifice pour nous, nous avons affaire à cette réalité qui dépasse toute autre réalité que nous connaissons ici-bas. Merci pour l'espérance que cela nous donne pour ceux qui nous ont quittés ce dernier temps, mais aussi pour nous-mêmes. Et donne-nous, Seigneur, donc de vivre cette réalité en conformité avec ce que tu nous dis. Donc de centrer notre vie autour de toi et non pas autour de nous-mêmes. Donc de chérir ce que nous avons en toi, de chercher à être tes serviteurs parce que cela te glorifie, au lieu de vouloir se servir de toi pour avoir ce que nous voulons. Merci Seigneur pour ces promesses précieuses et donne-nous de continuer à croire et avoir la foi en toi lorsque nous contemplons ces choses qui nous dépassent, qui restent encore obscures. Encourage-nous par ce qui est clair, par ce qui est central. Au nom précieux de Jésus, nous te prions cela. Amen.